Chapitre 16. La voie douloureuse, le calvaire. Là, rien n'avait été préparé pour la réception de la famille royale qui fut forcée de descendre dans une auberge. Soit par ordre de Pétion, que le silence du roi et de la reine avait fort blessé pendant la route, soit que l'auberge fut réellement pleine, on ne trouva pour les augustes prisonniers que 3 mansardes dans lesquelles ils s'installèrent. En descendant de voiture, Charny, selon son habitude, avait voulu s'approcher du roi et de la reine pour prendre leurs ordres, mais la reine, d'un seul coup d'œil, lui avait fait signe de se tenir à l'écart. Sans savoir la cause de cette recommandation, le comte s'était empressé d'y obéir. C'était Pétion qui était entré dans l'auberge et qui s'était chargé des fonctions de maréchal des logis. Il ne se donna même pas la peine de redescendre, et ce fut un garçon qui vint annoncer que les chambres de la famille royale étaient prêtes. Barnave était assez embarrassé. Il mourait d'envie d'offrir son bras à la reine, mais il craignait que celle qui jadis avait si fort raillé l'étiquette dans la personne de Madame de Noailles ne l'invoquât lorsque lui, Barnave, y manquerait. Il attendit donc. Le roi descendit le premier, s'appuyant au bras des 2 gardes, messieurs de Maldon et de Valory. Charny, on le sait déjà, sur un signe de Marie-Antoinette, s'était retiré à l'écart. La reine descendit ensuite et tendit les bras pour qu'on lui donnât le dauphin. Mais comme si le pauvre enfant eût senti le besoin que sa mère avait de cette flatterie, « Non, dit-il, je veux rester avec mon ami Barnave. » Marie-Antoinette fit un signe d'assentiment accompagné d'un doux sourire. Barnave laissa passer Madame Royale, puis il descendit, portant le dauphin dans ses bras. Madame de Tourzel venait ensuite, n'aspirant qu'à reprendre son royal élève aux mains indignes qui le tenaient. Mais un nouveau signe de la reine calma l'aristocratique ardeur de la gouvernante des enfants de France. La reine monta l'escalier, sale et tortueux, s'appuyant au bras de son mari. Au premier étage, elle s'arrêta, croyant avoir assez fait en montant 20 marches, mais la voix du garçon cria « Plus haut, plus haut !» Et sur cette invitation, la reine continua de monter. La sueur de la honte perla sur le front de Barnave. « Comment plus haut » demanda-t-il. « Oui, dit le garçon, ici, c'est la salle à manger et les appartements de messieurs de l'Assemblée nationale. » Un éblouissement passa sur les yeux de Barnave. Pétion avait pris les appartements du premier étage pour lui et ses collègues et avait relégué la famille royale au second. Cependant, le jeune député ne dit rien, mais craignant sans doute le premier mouvement de la reine lorsqu'elle verrait les chambres du second étage destinées par Pétion à elle et à sa famille, en arrivant à ce second étage, Barnave déposa l'enfant royal sur le palier. « Madame, madame, dit le jeune prince, s'adressant à sa mère, voilà mon ami Barnave qui s'en va. » « Il fait bien, dit en riant la reine, qui venait de jeter un coup d'œil sur l'appartement. Cet appartement, comme nous l'avons dit, se composait de 3 petites pièces se commandant les unes aux autres. La reine s'installa dans la première avec Madame Royale, Madame Élisabeth prit la seconde pour elle, le dauphin et Madame de Tourzel. Enfin, le roi prit la troisième, qui était un petit cabinet, ayant en retour une porte de sortie sur l'escalier. Le roi était fatigué. Il voulut, en attendant le souper, se jeter quelques instants sur son lit. Mais ce lit était si court qu'au bout d'une minute, il fut obligé de se lever en ouvrant la porte et demanda une chaise. Messieurs de Maldon et de Valory étaient déjà à leur poste sur les marches de l'escalier. Monsieur de Maldon, qui se trouvait le plus à portée, descendit, prit une chaise dans la salle à manger et la porta au roi. Louis XVI, qui avait déjà une chaise de bois dans son cabinet, accommoda cette seconde chaise que lui apportait Monsieur de Maldon pour en faire un lit à sa taille. « Oh, sire, dit Monsieur de Maldon en joignant les mains et en secouant douloureusement la tête, comptez-vous donc passer la nuit ainsi ?»« Certainement, monsieur, dit le roi. » Et puis il ajouta, « D'ailleurs, si ce que l'on me crie aux oreilles de la misère de mon peuple est vrai, combien de mes sujets seraient heureux d'avoir ce petit cabinet, ce lit et ces 2 chaises ?» Et il s'étendit sur cette couche improvisée, préludant ainsi aux longues douleurs du temple. Un instant après, on vint annoncer à leur majesté qu'elles étaient servies. Le roi descendit et vit 6 couverts sur la table. « Pourquoi ces 6 couverts ?» demanda-t-il. Mais, dit le garçon, un pour le roi, un pour la reine, un pour madame Élisabeth, un pour madame royale, un pour monseigneur le dauphin, et un pour monsieur Pétion, et pourquoi pas un aussi pour monsieur Barnave et un pour monsieur la Tour Maubourg, demanda le roi. Ils y étaient, sire, répondit le garçon, mais monsieur Barnave les a fait ôter. Et il a laissé celui de monsieur Pétion. Monsieur Pétion a exigé qu'il restât. En ce moment, la figure grave, plus que grave, austère, du député de Chartres parut à l'encadrement de la porte. Le roi fit comme s'il n'était pas là et répondit au garçon « Je ne me mets à table qu'avec ma famille. Nous mangeons entre nous ou avec les gens que nous invitons. Autrement, nous ne mangeons pas. « Je savais bien, dit Pétion, que votre majesté avait oublié le premier article de la Déclaration des droits de l'homme, mais je croyais qu'elle aurait au moins l'air de s'en souvenir. » Le roi fit semblant de ne pas entendre Pétion, comme il avait fait semblant de ne pas le voir, et d'un signe des yeux et du sourcil, il ordonna au garçon d'enlever le couvert. Le garçon obéit. Pétion sortit, furieux. « Monsieur de Malden, dit le roi, tirez la porte, afin que, autant que possible, nous soyons chez nous. » Monsieur de Malden obéit à son tour, et Pétion put entendre la porte se refermer derrière lui. Le roi arriva ainsi à dîner en famille. Les deux gardes du corps servirent comme d'habitude. Quant à Charny, il ne parut point, il n'était plus le serviteur, il était toujours l'esclave de la reine. Mais il y avait des moments où cette obéissance passive à la reine blessait la femme. Aussi, pendant tout le souper, Marie-Antoinette, impatiente, chercha des yeux Charny. Elle l'eût voulu qu'après lui avoir obéi un instant, il finît par lui désobéir. Au moment où le roi, le souper terminé, remua sa chaise pour se lever de table, le salon s'ouvrit et le garçon, entrant, pria au nom de monsieur Barnave, leur majesté, de vouloir bien prendre l'appartement du premier à la place du leur. Louis XVI et Marie-Antoinette se regardèrent. Fallait-il faire de la dignité et repousser la courtoisie de l'un pour punir la grossièreté de l'autre? Peut-être eût-ce été de l'avis du roi, mais le dauphin courut au salon en criant « Où est-il, mon ami Barnave ?» La reine suivit le dauphin et le roi la reine. Barnave n'était point au salon. Du salon, la reine passa dans les chambres. Il y en avait trois, comme à l'étage supérieur. On avait pu faire de l'élégance, mais on avait fait de la propreté. Des bougies brûlaient dans des chandeliers de cuivre, c'est vrai, mais brûlaient à profusion. Deux ou trois fois, pendant la route, la reine s'était récriée en passant devant de beaux jardins garnis de fleurs. La chambre de la reine était garnie des plus belles fleurs d'été, en même temps que les fenêtres ouvertes permettaient aux parfums trop âcres de s'échapper. Des rideaux de mousseline, fermant l'ouverture de ces fenêtres, s'opposaient à ce qu'un regard indiscret poursuivit chez elle l'auguste prisonnière. C'était Barnave qui avait veillé à tout cela. Elle soupira, la pauvre reine. 6 ans auparavant, c'est Charny qui eut pris tous ses soins. Au reste, Barnave eut la délicatesse de ne pas venir chercher un remerciement. C'est encore ce qu'eût fait Charny. Comment un petit avocat de province avait-il les mêmes attentions et les mêmes délicatesses qu'avait eu l'homme le plus élégant et le plus distingué de la cour? Il y avait certes bien là-dedans de quoi faire rêver une femme. Cette femme fut-elle reine? Aussi la reine rêva-t-elle à cet étrange mystère une partie de la nuit. Pendant ce temps, que devenait le comte de Charny? Charny, nous l'avons vu, sur le signe que lui fit la reine, s'était retiré, et depuis ce moment n'avait pas reparu. Charny, que son devoir enchaînait au pas de Louis XVI et de Marie-Antoinette, était heureux que l'ordre de la reine, dont il ne chercha pas même la cause, lui eût donné un moment de solitude et de réflexion. Il avait vécu rapidement depuis 3 jours, il avait vécu tellement hors de lui-même, pour ainsi dire, il avait tant vécu pour les autres, qu'il n'était pas fâché de laisser pendant quelques minutes la douleur d'autrui pour revenir à sa propre douleur. Charny était le gentilhomme des anciens jours, l'homme de la famille surtout. Il adorait ses frères, dont il était plutôt le père que le frère aîné. À la mort de Georges, sa douleur avait été grande, mais au moins il avait pu, agenouillé près du cadavre, dans cette petite et sombre cour de Versailles, répandre sa douleur avec ses larmes. Mais au moins il lui restait son second frère Isidore, sur lequel toute son affection s'était reportée. Isidore, qui lui était devenu plus cher encore, s'il était possible, pendant les 3 ou 4 mois qui avaient précédé son départ et où le jeune homme lui avait servi d'intermédiaire près d'André. Nous avons tâché, sinon de faire comprendre, du moins de raconter, ce singulier mystère de certains cœurs que la séparation anime au lieu de les refroidir, et qui puise dans l'absence un nouvel aliment aux souvenirs qui les occupent. Eh bien, moins Charny voyait André, plus il pensait à elle, et pensait de plus en plus à André. Pour Charny, c'était l'aimer. En effet, quand il voyait André, quand il était près d'André, il lui semblait purement et simplement être près d'une statue de glace dont le moindre rayon d'amour ferait fondre et qui, retirée à l'ombre et en elle-même, craignait autant l'amour que, de glace véritablement, une statue craindrait le soleil. Il était en contact avec ce geste lent et froid, avec cette parole grave et retenue, avec ce regard muet et voilé. Derrière ce geste, derrière cette parole, derrière ce regard, il ne voyait, disons mieux, il n'entrevoyait rien. Tout cela était blanc, pâle, laiteux comme l'albâtre, froid et terne comme lui. C'est ainsi, sauf de rares intervalles d'animation amenés par des situations violentes, que lui était apparu André pendant leurs dernières entrevues, et surtout pendant celle qu'il avait eue avec la malheureuse jeune femme rue Coqueron, le soir où elle avait à la fois retrouvé et perdu son fils. Mais dès qu'il s'éloignait d'elle, la distance produisait son effet ordinaire, en éteignant les teintes trop vives, en estompant les contours trop arrêtés. Alors le geste lent et froid d'André s'animait, alors la parole grave et contenue d'André devenait timbrée et sonore, alors le regard muet et voilé d'André soulevait sa longue paupière et lançait une flamme humide et dévorante. Alors il lui semblait qu'un feu intérieur s'allumait au cœur de la statue, et qu'à travers l'albâtre de ses chairs, il voyait circuler le sang et battre le cœur. Ah, c'était dans ces moments d'absence et de solitude qu'André était la véritable rivale de la reine. C'était dans l'obscurité fiévreuse de ces nuits que Charny croyait tout à coup voir s'ouvrir la muraille de sa chambre ou se soulever la tapisserie de sa porte et s'approcher de son lit, les bras ouverts, les lèvres murmurantes, l'œil plein d'amour, cette statue transparente que le feu de son âme éclairait au dehors. Alors Charny, lui aussi, étendait les bras. Alors Charny appelait la douce vision. Alors Charny essayait de presser le fantôme sur son cœur. Mais, hélas, le fantôme lui échappait. Il n'embrassait que le vide et retombait de son rêve haletant dans la triste et froide réalité. Isidore lui était donc devenu plus cher qu'il ne l'avait jamais été. Et nous l'avons vu, le comte n'avait pas eu la sombre joie de pleurer sur le cadavre d'Isidore, comme il avait eu celle de pleurer sur le cadavre de Georges. Tous deux, l'un après l'autre, étaient tombés pour cette femme fatale, pour cette cause pleine d'abîmes, pour la même femme, et dans un abîme pareil, lui, Charny, tomberait certainement à son tour. Eh bien, depuis 2 jours, depuis la mort de son frère, depuis cette dernière étreinte qui avait laissé ses habits teints de son sang, ses lèvres tièdes du dernier soupir de la victime, depuis cette heure à laquelle monsieur de Choiseul lui avait remis les papiers trouvés sur Isidore, à peine avait-il eu un instant à donner à cette grande douleur. Ce signe de la reine qui lui avait indiqué qu'il eût à se tenir à l'écart, il l'avait donc reçu comme une faveur et accepté comme une joie. Dès lors, il avait cherché un coin, un endroit, une retraite, et tout en demeurant à portée de venir au secours de la famille royale, au premier appel, au premier cri, il put néanmoins être bien seul avec sa douleur, bien isolé avec ses larmes. Il avait trouvé une mansarde située au haut du même escalier où veillaient messieurs de Malden et de Valory. Une fois seul, là, enfermé, assis devant une table éclairée par une de ces lampes à cuivre à 3 becs, comme nous en retrouvons encore aujourd'hui dans quelques vieilles maisons de village, il avait tiré de sa poche les papiers ensanglantés, seule relique qui lui restasse de son frère. Puis le front dans ses 2 mains, les yeux fixés sur ses lettres où continuaient à vivre les pensées de celui qui n'était plus, il avait pendant longtemps laissé couler de ses joues sur la table des larmes pressées et silencieuses. Enfin, il poussa un soupir, releva et secoua la tête, prit et déplia une lettre. Elle était de la pauvre Catherine. Charny soupçonnait depuis quelques mois cette liaison d'Isidore avec la fille du fermier. Lorsque, à Varennes, Billot s'était chargé de la lui raconter dans tous ses détails, mais seulement après le récit du fermier, il lui avait accordé toute l'importance qu'elle méritait de prendre dans son esprit. Cette importance s'accrut encore à la lecture de la lettre. Alors il vit ce titre de maîtresse rendu sacré par le titre de mère, et dans les termes si simples où Catherine exposait son amour, toute la vie de la femme donnée en expiation de la faute de la jeune fille. Il en ouvrit une seconde, puis une troisième. C'était toujours les mêmes plans d'avenir, les mêmes espérances de bonheur, les mêmes joies maternelles, les mêmes craintes d'amante, les mêmes regrets, les mêmes douleurs, les mêmes repentirs. Tout à coup, au milieu de ces lettres, il en vit une dont l'écriture le frappa. L'écriture était d'André, elle lui était adressée à lui. À la lettre, un papier plié en quatre était attaché par un cachet de cire aux armes d'Isidore. Cette lettre de l'écriture d'André, adressée à lui, Charny, et retrouvée parmi les papiers d'Isidore, lui parut une chose si étrange qu'il commença par ouvrir le billet annexé à la lettre avant d'ouvrir la lettre elle-même. Le billet, écrit au crayon par Isidore, sans doute sur quelque table d'auberge, et tandis qu'on lui scellait un cheval, contenait ces quelques lignes. « Cette lettre est adressée non point à moi, mais à mon frère, le comte Olivier de Charny. Elle est écrite par sa femme, la comtesse de Charny. S'il m'arrivait malheur, celui qui trouverait ce papier est prié de le faire passer au comte Olivier de Charny ou de le renvoyer à la comtesse. » Je tiens de celle-ci la recommandation suivante. Si dans l'entreprise qu'il poursuit, le comte réussissait sans accident, rendre la lettre à la comtesse, s'il était blessé grièvement mais sans danger de mort, le prier d'accorder à sa femme la grâce de le rejoindre, enfin s'il était blessé à mort, lui donner cette lettre, et s'il ne peut la lire lui-même, la lui lire, afin qu'avant d'expirer, il connaisse le secret qu'elle contient. Si la lettre est renvoyée à mon frère, le comte de Charny, comme sans doute ce billet lui sera remis en même temps, il agira à l'égard des trois recommandations ci-dessus, ainsi que sa délicatesse lui conseillera de le faire. Je lègue à ses soins la pauvre Catherine Billot, qui habite le village de Ville-d'Avray avec mon enfant, Isidore de Charny. D'abord, le comte parut entièrement absorbé par la lecture de ce billet de son frère. Ses larmes, un instant arrêtées, recommencèrent à couler avec la même abondance. Puis enfin, ses yeux encore voilés de pleurs se portèrent sur la lettre de madame de Charny. Il la regarda longtemps, la prit, la porta à ses lèvres, l'appuya sur son cœur, comme si elle eût pu communiquer à ce cœur le secret qu'elle contenait. Relut une fois encore, puis deux fois, puis trois fois, la recommandation de son frère. Puis, à demi-voix, en secouant la tête, « Je n'ai pas le droit d'ouvrir cette lettre, dit-il, mais je la supplierai tant elle-même qu'elle me laissera lire. » Et comme pour s'encourager dans cette résolution impossible à un cœur moins loyal que le sien, il répéta encore « Non, je ne la lirai pas. » En effet, il ne la lut point, mais le jour le surprit, assis à la même table et dévorant du regard l'adresse de cette lettre toute humide de son haleine, tant il l'avait pressée de froid contre ses lèvres. Tout à coup, au milieu du bruit qui se faisait dans l'hôtel annonçant le départ qui se préparait, on entendit la voix de M. de Malden qui appelait le comte de Charny. « Me voici, répondit le comte, et serrant dans la poche de son habit les papiers du pauvre Isidore, il baisa une dernière fois la lettre intacte, la mit sur son cœur et descendit rapidement. Il rencontra sur l'escalier Barnave, qui demandait des nouvelles de la reine et qui chargeait M. de Valory de prendre ses ordres pour l'heure du départ. Il était facile que Barnave ne s'était pas plus couché et n'avait pas plus dormi que le comte Olivier de Charny. Les deux hommes se saluèrent, et Charny eut certainement remarqué l'éclair de jalousie qui passa dans les yeux de Barnave en l'entendant s'informer lui-même de la santé de la reine, s'il eût pu se préoccuper d'autre chose que de cette lettre qu'il pressait du bras contre son cœur. En remontant en voiture, le roi et la reine virent avec étonnement qu'ils n'avaient plus autour d'eux pour les regarder partir que la population de la ville et pour les accompagner que de la cavalerie. C'était encore une attention de Barnave. Il savait ce que, la veille, la reine, forcée de marcher au pas, avait souffert de la chaleur, de la poussière, des insectes, de la multitude, des menaces faites à ses gardes et aux fidèles serviteurs qui venaient pour lui adresser un dernier salut. Il avait faim d'avoir reçu la nouvelle d'une invasion. Monsieur de Bouillé rentrait en France avec 50 000 Autrichiens. C'était contre lui que devait se porter tout homme ayant un fusil, une faux, une pique, une arme quelconque, enfin, et toute la population avait entendu cet appel et était retournée sur ses pas. C'est qu'alors il y avait en France une véritable haine de l'étranger, haine si puissante qu'elle l'emportait sur celle que l'on avait vouée au roi et à la reine dont le plus grand crime était d'être étrangère. Marie-Antoinette devina d'où lui venait ce nouveau bienfait. Nous disons « bienfait » et le mot n'est point exagéré. Elle remercia Barnave d'un coup d'œil. Au moment où elle allait prendre place dans la voiture, son regard avait cherché celui de Charny. Charny était déjà sur son siège. Seulement, au lieu de se placer au milieu comme la veille, il avait obstinément voulu céder à Monsieur de Malden cette place, moins dangereuse que celle qu'avait occupée jusque-là le fidèle garde du corps. Charny eût désiré qu'une blessure lui permît d'ouvrir cette lettre de la comtesse qui lui brûlait le cœur. Il ne vit donc point le regard de la reine qui cherchait le sien. La reine poussa un profond soupir. Barnave l'entendit. Inquiet de savoir où allait ce soupir, le jeune homme s'arrêta sur le marchepied de la voiture. « Madame, dit-il, je me suis aperçu hier que vous étiez bien serré dans cette berline. Une personne de moins vous fera quelque allègement. Si vous le désirez, je monterai dans la voiture de suite avec monsieur de la Tour Maubourg, où je vous accompagnerai à cheval. » Barnave, en faisant une pareille offre, eût donné la moitié des jours qui lui restaient à vivre, et il ne lui en restait pas beaucoup, pour que cette offre fût refusée. Elle le fut. « Non, dit vivement la reine, restez avec nous, vous !» En même temps, le dauphin disait, en étendant ses petites mains pour attirer à lui le jeune débuté, « Ah, mon ami Barnave, je ne veux pas que tu t'en ailles !» Barnave, radieux, reprit sa place de la veille. À peine y fut-il assis que le dauphin, à son tour, passa des genoux de la reine sur les siens. La reine embrassa, en le laissant glisser de ses mains, le dauphin sur les deux joues. La trace humide de sa lèvre resta empreinte sur la peau veloutée de l'enfant. Barnave regarda cette trace du baiser maternel comme Tantale devait regarder les fruits qui pendaient sur sa tête. « Madame, dit-il à la reine, votre majesté daignerait-elle m'accorder la faveur d'embrasser l'auguste prince qui, guidé par l'instinct infaillible de son âge, veut bien m'appeler son ami ?» La reine fit en souriant un signe de tête. Alors les lèvres de Barnave se collèrent sur cette trace des lèvres de la reine avec une telle ardeur que l'enfant effrayé jeta un cri. La reine ne perdait rien de tout ce jeu où Barnave apportait sa tête. Peut-être n'avait-elle pas plus dormi que Barnave et Charny, seulement cette espèce d'animation qui rendait la vie à ses yeux était peut-être causée par la fièvre intérieure qui la brûlait. Mais ses lèvres couvertes d'une couche de pourpre, ses joues légèrement teintées d'un rose presque imperceptible, faisaient d'elle cette dangereuse sirène qui, avec un de ses cheveux, était sûre de conduire ses adorateurs jusqu'à l'abîme. Grâce à la précaution de Barnave, la voiture faisait maintenant 2 lieues à l'heure. À Château-Thierry, on s'arrêta pour dîner. La maison où l'on fit halte était située près de la rivière, dans une position charmante, et appartenait à une riche marchande de bois qui n'avait point attendu qu'on la désignât, mais qui la veille, apprenant que la famille royale devait passer par Château-Thierry, avait fait partir à cheval un de ses commis pour offrir à messieurs les délégués de l'Assemblée nationale de leur donner, ainsi qu'au roi et à la reine, l'hospitalité dans sa maison. L'offre avait été acceptée. Aussitôt que la voiture s'arrêta, un concours empressé de serviteurs indiqua aux augustes prisonniers une réception toute différente de celle qu'ils avaient subie la veille à l'auberge de Dormans. La reine, le roi, Madame Élisabeth, Madame de Tourzel et les deux enfants furent conduits dans des chambres séparées où tous les préparatifs étaient faits pour que chacun pût donner à sa toilette les soins les plus minutieux. Depuis son départ de Paris, la reine n'avait point rencontré pareille prévoyance. Les habitudes les plus délicates de la femme venaient d'être caressées par cette aristocratique attention. Marie-Antoinette, qui commençait à apprécier de pareils soins, demanda pour la remercier sa bonne hôtesse. Un instant après, une femme de 40 ans, fraîche encore et mise avec une simplicité extrême, se présenta. Elle avait eu jusque-là la modestie de se tenir loin des regards de ceux qu'elle recevait. « C'est vous, madame, qui êtes la maîtresse de la maison ?» demanda la reine. « Oh, madame !» s'écria l'excellente femme en fondant en larmes, « partout où votre majesté daigne s'arrêter, et quelle que soit la maison honorée de sa présence, là où est la reine est la seule maîtresse. » Marie-Antoinette jeta un regard autour de la chambre pour voir si elles étaient bien seules. Puis, s'étant assurée que personne ne pouvait ni voir ni entendre, « Si vous vous intéressez à notre tranquillité, dit-elle en lui prenant la main, en l'attirant à elle, et en l'embrassant comme elle l'eût fait d'une amie, et si vous avez quelques soucis de votre propre salut, calmez-vous et modérez ces marques de douleur, car si l'on venait à s'apercevoir du motif qui les cause, elles pourraient vous être funestes, et vous devez comprendre, s'il vous arrivait quelque désagrément, combien cela ajouterait à nos peines. Nous nous reverrons, peut-être. » Contenez-vous donc et conservez-moi une amie dont la rencontre aujourd'hui m'est si rare et si précieuse. » Après le dîner, on se remit en route. La chaleur était accablante. Le roi, qui s'était plusieurs fois aperçu que Madame Élisabeth, écrasée de fatigue, laissait tomber, malgré elle, sa tête sur sa poitrine, exigea que la princesse se prît, jusqu'à Meaux, où l'on devait coucher, sa place au fond de la voiture. Sur ordre exprès du roi, Madame Élisabeth céda. Pétion avait assisté à tout ce débat sans offrir sa place. Barnave, pourpre de honte, cachait sa tête entre ses deux mains, mais à travers les ouvertures de ses doigts, il pouvait voir le sourire mélancolique de la reine. Au bout d'une heure de marche, la fatigue de Madame Élisabeth devint si grande qu'elle s'endormit tout à fait, et la conscience de ce qu'elle faisait était si éteinte en elle-même que la belle tête d'ange, après avoir ballotté un instant à droite et à gauche sur ses épaules, finit par se reposer sur l'épaule de Pétion. C'est ce qui fait dire au député de Chartres, dans la relation inédite de son voyage, que Madame Élisabeth, la sainte créature que vous savez, était devenue amoureuse de lui, et en reposant un moment sa tête sur son épaule, cédait à la nature. Vers 4 heures de l'après-midi, on arriva à Meaux, et l'on s'arrêta devant le palais épiscopal qu'avait habité Bossuet, et dans lequel, 87 ans auparavant, l'auteur du discours sur l'histoire universelle était mort. Le palais était habité par un évêque constitutionnel et assermenté. On s'en aperçut plus tard à la façon dont il reçut la famille royale. Mais pour le moment, la reine ne fut frappée que de l'aspect sombre du bâtiment dans lequel elle allait entrer. Nulle part, palais princier ou religieux ne s'élevait plus digne par sa mélancolie d'abriter la suprême infortune qui venait lui demander asile pour une nuit. Ce n'est plus comme à Versailles, où la grandeur est simple. Une large pente pavée de briques conduit aux appartements, et les appartements donnent sur un jardin dont les remparts même de la ville font le soutènement. Ce jardin est dominé par la tour de l'église, tout entièrement couverte de lierre, et conduit par une allée bordée de houx au cabinet d'où l'éloquent évêque de Meaux jetait de temps en temps un de ces cris sinistres qui présagent la chute des monarchies. La reine promena son regard sur cette lugubre bâtisse et, la trouvant selon l'état de son esprit, elle porta les yeux autour d'elle, cherchant un bras où appuyer le sien pour visiter le palais. Barnave seul était là. La reine sourit. « Donnez-moi le bras, monsieur, dit-elle, et ayez la bonté de me servir de guide dans ce vieux palais. Je n'oserais pas m'y aventurer seul, j'aurais peur d'y entendre retentir cette grande voix qui, un jour, fit tressaillir la chrétienté à ce cri « Madame se meurt, Madame est morte !» Barnave s'approcha rapidement et offrit son bras à la reine avec un empressement mêlé de respect. Mais la reine jeta un dernier regard autour d'elle. L'absence obstinée de Charny l'inquiétait. Barnave, qui voyait tout, remarqua ce regard. « La reine désire quelque chose ? » demanda-t-il. « Oui, je désirerais savoir où est le roi, » répondit Marie-Antoinette. « Il a fait l'honneur à Monsieur Pétion de le recevoir, » dit Barnave, « et il cause avec lui. » La reine parut satisfaite. Puis, comme si elle eût besoin de s'arracher à elle-même et de sortir de sa propre pensée, « Venez, » dit-elle, et elle entraîna Barnave à travers les appartements du palais épiscopal. On eût dit qu'elle fuyait, suivant l'ombre flottante dessinée par son esprit et ne regardant ni devant ni derrière elle. Dans la chambre à coucher du grand prédicateur, elle s'arrêta enfin, presque essoufflée. Le hasard fit qu'elle se trouva en face d'un portrait de femme. Elle leva machinalement les yeux et, lisant sur le cadre ces mots, « Madame Henriette », elle tressaillit. Ce tressaillement, Barnave le sentit sans le comprendre. « Votre Majesté souffre-t-elle » demanda-t-il. « Non, » dit la reine, « mais ce portrait, Madame Henriette... » Barnave devina ce qui se passait dans le cœur de la pauvre femme. « Oui, » dit-il, « Madame Henriette, mais Madame Henriette d'Angleterre, non pas la veuve du malheureux Charles Ier, mais la femme de l'insouciant Philippe d'Orléans, non pas celle qui pensa mourir de froid au Louvre, mais celle qui mourut empoisonnée à Saint-Cloud et qui, en mourant, envoya sa bague à Bossuet. » Et puis, après un instant d'hésitation, « J'aimerais mieux que ce fût le portrait de l'autre, » dit-il. « Et pourquoi cela ?» demanda Marie-Antoinette. « Mais parce qu'il y a des bouches qui seules osent donner certains conseils, et ces bouches sont surtout celles que la mort a fermées. Et ne pourriez-vous me dire, monsieur, ce que conseillait la bouche de la veuve du roi Charles ?» demanda la reine. « Si, si sa majesté l'ordonne, j'essayerai, » répondit Barnave. « Essayez, alors. Oh, ma sœur, vous direz cette bouche, ne vous apercevez-vous pas de la ressemblance qu'il y a entre nos deux destinées? Je venais de France, comme vous venez d'Autriche. J'étais pour les Anglais une étrangère, comme vous êtes une étrangère pour la France. J'aurais pu donner à mon mari égaré de bons conseils, je gardais le silence ou lui en donnais de mauvais. Au lieu de le rallier à son peuple et de rallier son peuple à lui, je l'excitais à la guerre, je lui donnais le conseil de marcher sur Londres avec les protestants anglais. Non seulement j'entretenais une correspondance avec l'ennemi de l'Angleterre, mais encore je passais deux fois en France pour amener en Angleterre des soldats étrangers. Enfin, Barnave s'arrêta. « Continuez, » reprit la reine, le sourcil sombre et la lèvre plissée. « Pourquoi continuerai-je, madame ?» répondit le jeune orateur en secouant tristement la tête. « Vous savez aussi bien que moi la fin de cette sanglante histoire. « Oui, je vais donc continuer et vous dire à vous ce que le portrait de madame Henriette dirait à moi, afin que vous m'appreniez si je me trompe. Enfin, les Écossais trahirent et livrèrent le roi. Le roi fut arrêté au moment où il rêvait de passer en France. Un tailleur l'alla prendre, un boucher le conduisit en prison, un charretier purgea la chambre qui le devait juger. Un marchand de bière présida la cour de justice, et pour que rien ne manquât à l'odieux de ce jugement et à la révision de ce procès inique porté devant le souverain juge qui reçoit tous les procès, un bourreau masqué trancha la tête de la victime. Voilà ce que le portrait de madame Henriette me dirait, n'est-ce pas? Eh mon Dieu, je sais tout cela aussi bien que personne. Je le sais d'autant plus que rien ne manque à la ressemblance. Nous avons notre marchand de bière des faubourgs. Seulement, au lieu de s'appeler Cromwell, il s'appelle Santerre. Nous avons notre boucher. Seulement, au lieu de s'appeler Harrison, il s'appelle, Le Gendre, je crois. Nous avons notre charretier. Seulement, au lieu de s'appeler Pridge, il s'appelle, pour cela, je n'en sais rien. L'homme est si peu de choses que je ne connais même pas son nom, ni vous non plus, j'en suis sûr. Mais demandez-le lui, il vous le dira. C'est l'homme qui conduit notre escorte, un paysan, un vilain, un manant, que sais-je. Eh bien, voilà ce que madame Henriette me dirait. Et que lui répondriez-vous? Je lui répondrai, pauvre chère princesse, ce ne sont pas des conseils que vous me donnez là, c'est un cours d'histoire que vous me faites. Le cours d'histoire est fait, maintenant j'attends vos conseils. Oh, ces conseils, madame, dit Barnave, et si vous ne vous refusiez pas à les suivre, ce serait non seulement les morts, mais encore les vivants qui vous les donneraient. Morts ou vivants, que ceux qui doivent parler parlent. Qui dit, si les conseils sont bons, qu'on ne les suivra point? Eh, mon Dieu, madame, morts et vivants n'ont qu'un seul conseil à vous donner. Lequel? Vous faire aimer du peuple. Avec cela que c'est facile de se faire aimer de votre peuple. Eh, madame, ce peuple est bien plus le vôtre que le mien, et la preuve, c'est qu'à votre arrivée en France, ce peuple vous adorait. Oh, monsieur, que vous parlez là d'une chose fragile, la popularité. Madame, madame, dit Barnave, si moi, inconnu, sorti de mon obscure sphère, j'ai conquis cette popularité, combien vous était-il plus aisé de la garder, ou vous serait-il plus facile de la reconquérir? Mais non, continua Barnave en s'animant, non, votre cause, la cause de la monarchie, la plus sainte, la plus belle des causes, à qui l'avez-vous confiée? Quelle voix et quels bras l'ont défendue? On ne vit jamais pareille ignorance des temps, pareil oubli du génie de la France. Oh, tenez, moi qui ai sollicité la mission d'aller au-devant de vous dans ce seul but, moi qui vous vois, moi qui vous parle enfin combien de fois, mon Dieu, n'ai-je pas été au moment d'aller m'offrir à vous, de me dévouer, de... Silence, dit la reine, on vient. Nous recoserons de tout cela, monsieur Barnave. Je suis prête à vous revoir et à vous entendre, à suivre vos conseils. Oh, madame, madame, s'écria Barnave, transporté. Silence, dit la reine. Votre majesté est servie, dit en paraissant sur le seuil de la porte le domestique dont on avait entendu les pas. On rentra dans la salle à manger. Le roi y arrivait par une autre porte. Il venait de causer avec Pétion pendant tout le temps que la reine avait causé avec Barnave et il paraissait fort animé. Les deux gardes attendaient debout, réclamant comme toujours le privilège de servir leur majesté. Charny, le plus éloigné de tous, se tenait debout, dans l'embrasure d'une fenêtre. Le roi regarda autour de lui et, profitant d'un moment où il était seul avec sa famille, les deux gardes et le comte, « Messieurs, dit-il à ces derniers, après le souper, il faut que je vous parle. Vous me suivrez donc, s'il vous plaît, dans mon appartement. » Les trois officiers s'inclinèrent. Le service commença ainsi que d'habitude. Mais, quoique dressée cette fois chez un des premiers évêques du royaume, la table était aussi mal servie le soir à Meaux qu'elle avait été bien servie le matin à Château-Thierry. Le roi, comme toujours, avait grand appétit et mangea beaucoup, malgré la mauvaise chair. La reine ne prit que deux œufs frais. Depuis la veille, le dauphin, qui était un peu malade, demandait des fraises. Mais le pauvre enfant n'en était déjà plus au temps où ses moindres désirs étaient prévenus. Depuis la veille, tous ceux à qui il s'était adressé lui avaient répondu « Oh, il n'y en a pas » ou « L'on n'en peut pas trouver ». Et cependant, sur la route, il avait vu de gros enfants de paysans mangeant à même des bouquets de fraises qu'ils avaient été cueillir dans les bois. Il avait alors, pauvre petit, fort envié ces gros enfants, aux cheveux blonds, aux joues roses, qui n'avaient pas besoin de demander des fraises et qui, lorsqu'ils en avaient envie, allaient les cueillir eux-mêmes, sachant les clairières où poussent les fraises, comme les petits oiseaux savent les champs où fleurissent la navette et le chènevis. Ce désir qu'elle n'avait pu satisfaire avait fort attristé la reine, de sorte que lorsque l'enfant, refusant tout ce qu'on lui offrait, demanda de nouveau des fraises, les larmes vinrent aux yeux de la mère impuissante. Elle chercha autour d'elle à qui elle pouvait s'adresser et aperçut Charny, muet, debout, immobile. Elle lui fit signe une fois, deux fois, mais absorbée dans sa pensée, Charny ne vit point les signes de la reine. Enfin, d'une voix rauque d'émotion, « Monsieur le comte de Charny, » dit-elle. Charny tressaillit, comme si on l'eût tiré d'un rêve, et fit un mouvement pour s'élancer vers la reine. Mais, en ce moment, la porte s'ouvrit, et Barnave parut, un plat de fraises à la main. « La reine m'excusera, dit-il, si j'entre ainsi, et le roi sera assez bon, je l'espère, pour me pardonner, mais... plusieurs fois dans la journée, j'ai entendu monsieur le dauphin demander des fraises. J'ai trouvé ce plat sur la table de l'évêque. Je l'ai pris et je l'apporte. » Pendant ce temps, Charny avait fait le tour et s'était approché de la reine, mais celle-ci ne lui donna même pas le temps de venir jusqu'à elle. Merci, monsieur le comte, dit-elle, monsieur Barnave a deviné ce que je désirais, et je n'ai plus besoin de rien. Charny s'inclina, et sans répondre un seul mot, retourna à sa place. Merci, mon ami Barnave, dit le jeune dauphin. Monsieur Barnave, dit le roi, notre dîner n'est pas bon, mais si vous voulez en prendre votre part, vous nous ferez plaisir, à la reine et à moi. Sire, dit Barnave, une invitation du roi est un ordre, ou plaît-il à votre majesté que je m'assoie? Entre la reine et le dauphin, dit le roi. Barnave s'assit, fou à la fois d'amour et d'orgueil. Charny regarda toute cette scène sans que le moindre frisson de jalousie courût de son cœur à ses veines, seulement voyant ce pauvre papillon qui lui aussi venait se brûler à la lumière royale. « Encore un qui se perd, dit-il, c'est dommage, celui-là valait mieux que les autres. » Et puis, revenant à son incessante pensée, « cette lettre, murmura-t-il, que peut-il y avoir dans cette lettre ?» Après le souper, les trois officiers, comme ils en avaient reçu l'ordre, montèrent dans la chambre du roi. Madame Royale, Monsieur le Dauphin et Madame de Tourzel étaient dans leur chambre. Le roi, la reine et Madame Élisabeth attendaient. Lorsque les jeunes gens furent entrés, « Monsieur de Charny, dit le roi, faites-moi le plaisir de fermer la porte, que personne ne vienne nous déranger. J'ai quelque chose de la plus haute importance à vous communiquer. Hier, messieurs, à dormant, Monsieur Pétion m'a proposé de vous faire évader sous un déguisement. Mais la reine et moi, nous y sommes opposés, de peur que cette proposition ne fût un piège et que l'on ne tentât de vous éloigner pour vous assassiner ou vous livrer au fond de quelque province à une commission militaire qui vous condamnerait à être fusillé sans vous laisser aucun recours. Nous avons donc, la reine et moi, pris sur nous de repousser cette proposition. Mais aujourd'hui, Monsieur Pétion est revenu à la charge, engageant son honneur de député, et je crois devoir vous faire part de ce qu'il craint et de ce qu'il propose. Sire, interrompit Charny, avant que votre majesté aille plus loin, et ici non seulement je parle en mon nom, mais encore je crois être l'interprète des sentiments de ces messieurs, avant d'aller plus loin, le roi veut-il nous promettre une grâce ? « Monsieur, dit Louis XVI, votre dévouement pour la reine et pour moi a exposé votre vie depuis 3 jours. Depuis 3 jours, à chaque instant, vous êtes menacé de la mort la plus cruelle. À chaque instant, vous partagez les hontes dont on nous abreuve, les insultes dont on nous couvre. Monsieur, vous avez droit, non pas de solliciter une grâce, mais d'exposer votre désir, et ce désir, pour qu'il ne soit pas immédiatement accompli, il faudrait qu'il soit hors du pouvoir de la reine et du mien. » « Eh bien, sire, dit Charny, nous demandons humblement, mais instamment, à votre majesté, quelles que soient les propositions faites par messieurs les députés à notre endroit, de nous laisser la faculté d'accepter ces propositions ou de les refuser. « Monsieur, dit le roi, je vous engage ma parole de n'exercer aucune pression sur votre volonté. Ce que vous désirerez sera fait. » « Alors, sire, dit Charny, nous ajoutons avec reconnaissance. » La reine étonnée regardait Charny. Elle ne comprenait pas cette indifférence croissante qu'elle remarquait en lui avec cette volonté obstinée de ne pas s'écarter un instant de ce qu'il considérait sans doute comme son devoir. Aussi ne répondit-elle pas et laissa-t-elle le roi continuer la conversation. « Maintenant ce libre arbitre réservé par vous, dit le roi, voici les propres paroles de Monsieur Pétion. Sire, il n'y a au moment de votre entrée à Paris aucune sûreté pour les 3 officiers qui vous accompagnent. « Ni moi, ni Monsieur Barnave, ni Monsieur de la Tour Maubourg ne pouvons répondre de les sauver, même au péril de notre vie, et leur sang est d'avance dévolu au peuple. » Charny regarda ses 2 compagnons. Un sourire de mépris passa sur ses lèvres. « Bien, sire, demanda Charny. Après ?»« Après, dit le roi, voici ce que Monsieur Pétion propose. » Il propose de vous procurer 3 habits de gardes nationaux, de vous faire ouvrir cette nuit les portes de l'évêché et de laisser à chacun de vous toute liberté de fuir. Charny consulta de nouveau ses 2 compagnons, mais le même sourire lui répondit. Sire, dit-il en s'adressant de nouveau au roi, nos jours ont été consacrés à vos majestés. Elles ont daigné en accepter l'hommage. Il nous sera plus facile de mourir pour elles que de nous en séparer. Accordez-nous donc cette faveur de nous traiter demain comme vous nous avez traité hier, rien de plus, rien de moins. De toute votre cour, de toute votre armée, de tous vos gardes, il vous reste 3 cœurs fidèles. Ne leur ôtez pas la seule gloire qu'ils ambitionnent, celle d'être fidèles jusqu'au bout. C'est bien, messieurs, dit la reine, nous acceptons. Seulement, vous le comprenez, à partir de ce moment, tout doit nous être commun. Vous n'êtes plus pour nous des serviteurs, vous êtes des amis, des frères. Je ne vous dirai pas de me donner vos noms, je les connais. Mais, elle tira des tablettes de sa poche, mais donnez-moi ceux de vos pères, de vos mères, de vos frères et de vos sœurs. Il se peut que nous ayons le malheur de vous perdre sans que nous succombions, nous. Alors ce serait à moi à apprendre à ces êtres chéris leur malheur, en même temps que je mettrais à leur disposition pour les soulager autant qu'il serait en notre pouvoir. Allons, monsieur de Malden, allons, monsieur de Valory, dites hardiment, en cas de mort, et nous sommes tous si près de la réalité que nous ne devons pas reculer devant le mot, quels sont les parents, quels sont les amis que vous nous recommandez? Monsieur de Malden recommanda sa mère, vieille dame infirme, demeurant dans une petite terre aux environs de Blois. Monsieur de Valory recommanda sa sœur, jeune orpheline qu'il faisait élever dans un couvent à Soissons. Certes, c'étaient des cœurs forts et pleins de courage que ceux de ces deux hommes, et cependant, tandis que la reine écrivait les noms et les adresses de madame de Malden et de mademoiselle de Valory, tous deux faisaient d'inutiles efforts pour retenir leurs larmes. La reine aussi fut forcée de s'interrompre d'écrire pour tirer un mouchoir de sa poche et s'essuyer les yeux. Puis, quand elle eut achevé de prendre les adresses, se tournant vers Charny, « Hélas, monsieur de Charny, dit-elle, je sais que vous n'avez personne à me recommander, et vous, votre père et votre mère sont morts, et vos deux frères, la voix manqua à la reine, mes deux frères ont eu le bonheur de se faire tuer pour votre majesté, oui, madame, ajouta Charny, mais le dernier mort a laissé une pauvre enfant qu'il me recommande par une espèce de testament que j'ai retrouvé sur lui. Cette jeune fille, il l'a enlevée à sa famille, dont elle n'a plus de pardon à attendre. Tant que je vivrai, ni elle ni son enfant ne manqueront de rien, mais votre majesté l'a dit tout à l'heure avec son admirable courage, nous sommes tous en face de la mort, et si la mort me frappait, la pauvre fille et son enfant resteraient sans ressources. Madame, daignez prendre sur vos tablettes le nom d'une pauvre paysanne. Et si j'avais, comme mes deux frères, le bonheur de mourir pour mon auguste maître et ma noble maîtresse, abaissez votre générosité jusqu'à Catherine Billot et son enfant. On les trouvera tous deux dans le petit village de Ville-d'Avray. Sans doute, cette image de Charny expirant à son tour, comme avaient expiré ses deux frères, était un spectacle trop terrible pour l'imagination de Marie-Antoinette. Car, se renversant en arrière avec un faible cri, elle laissa échapper ses tablettes et alla, toute chancelante, tomber sur un fauteuil. Les deux gardes se précipitèrent vers elle, tandis que Charny, ramassant les tablettes royales, y inscrivait le nom et l'adresse de Catherine Billot et les reposait sur la cheminée. La reine fit un effort et revint à elle. Alors les jeunes gens, comprenant le besoin qu'elle avait, après une pareille émotion, de se trouver seule, firent un pas en arrière pour prendre congé. Mais elle, étendant la main vers eux, « Messieurs, dit-elle, vous ne me quittez point, je l'espère, sans me baiser la main. » Les deux gardes s'avancèrent dans le même ordre qu'ils avaient donné leur nom et leurs adresses, monsieur de Malden d'abord, puis monsieur de Valory. Charny s'approcha le dernier. La main de la reine était tremblante en attendant ce baiser pour lequel, certainement, elle avait offert les deux autres. Mais à peine les lèvres du comte touchèrent-elles cette belle main, tant il lui semblait, avec cette lettre d'André sur le cœur, que ce fut commettre un sacrilège que de toucher de ses lèvres la main de la reine. Marie-Antoinette poussa un soupir qui ressemblait à un gémissement. Jamais elle n'avait mieux mesuré que par ce baiser l'abîme que chaque jour, chaque heure, nous dirons presque chaque minute creusée entre elle et son amant. Le lendemain, au moment du départ, messieurs de la Tour Maubourg et Barnave, ignorant sans doute ce qui s'était passé la veille entre le roi et les trois officiers, renouvelèrent leurs instances pour faire habiller ceux-ci en gardes nationaux. mais ils refusèrent, disant que leur place était sur le siège de la voiture du roi, et qu'ils n'avaient pas d'autre costume à prendre que celui que le roi leur avait ordonné de porter. Alors Barnabe voulut qu'une planche dépassant à droite et à gauche le siège de la voiture fût attachée à ce siège, afin que deux grenadiers pussent se tenir sur cette planche et garantir, autant qu'ils seraient en eux, les obstinés serviteurs du roi. À 10 heures du matin, l'on quitta Meaux. On allait rentrer à Paris, d'où l'on était absent depuis 5 jours. 5 jours! Quel abîme insondable avait été creusé pendant ces 5 jours! À peine ne fut-on à une lieue au-delà de Meaux que le cortège prit un aspect plus terrible qu'il n'avait jamais eu. Toutes les populations des environs de Paris affluaient. Barnabe avait voulu forcer les postillons d'aller au trot, mais la garde nationale de Clay barra la route en présentant la pointe de ses baïonnettes. Il eût été imprudent d'essayer de briser cette digue. La reine elle-même comprit le danger et supplia les députés de ne rien faire pour augmenter cette colère du peuple, formidable orage que l'on entendait gronder et que l'on sentait venir. Bientôt la foule fut telle que ce fut à peine si les chevaux purent marcher au pas. Jamais il n'avait fait si chaud. Ce n'était plus de l'air que l'on respirait, c'était du feu. L'insolente curiosité de ce peuple poursuivait le roi et la reine jusque dans les deux angles de la voiture où ils s'étaient réfugiés. Des hommes montaient sur les marchepieds et fourraient leurs têtes dans la berline. D'autres se hissaient sur la voiture, d'autres derrière, d'autres se cramponnaient aux chevaux. Ce fut un miracle comment Charny et ses deux compagnons ne furent pas tués 20 fois. Les deux grenadiers ne pouvaient suffire à parer tout le coup. Ils priaient, ils suppliaient, ils commandaient au nom de l'Assemblée nationale, mais leur voix se perdait au milieu du tumulte, des clameurs, des vociférations. Une avant-garde de plus de 2000 hommes précédait la voiture, une arrière-garde de plus de 4000 la suivait. Sur les flancs roulait une foule qui allait augmentant sans cesse. Au fur et à mesure que l'on approchait de Paris, il semblait que, absorbé par la cité géante, l'air manquât. La voiture se mouvait, sous un soleil de 35 degrés, à travers un nuage de poussière dont chaque atome était comme une parcelle de verre pilé. 2 ou 3 fois, la reine se renversa en arrière en criant qu'elle l'étouffait. Au Bourget, le roi pâlit tellement que l'on crut qu'il allait se trouver mal. Il demanda un verre de vin, le cœur lui défaillait. Peu s'en fallut qu'on ne lui présentât, comme au Christ, une éponge trempée dans du fiel et du vinaigre. La proposition en fut faite et, par bonheur, repoussée. On atteignit la Villette. La foule fut plus d'une heure à s'amincir suffisamment pour s'engouffrer entre les deux rangs de maisons dont les pierres blanches renvoyaient les rayons du soleil et doublaient la chaleur. Il y avait des hommes, des enfants, des femmes partout. Jamais le regard n'avait mesuré une pareille foule. Les pavés étaient couverts de manière à ce que ceux qui les couvraient ne pussent remuer. Les portes, les fenêtres, les toits des maisons étaient chargés de spectateurs. Les arbres pliaient sous le poids de ces fruits vivants. Tout ce monde avait le chapeau sur la tête. C'est que, dès la veille, cette affiche avait été placardée sur tous les murs de Paris. « Celui qui saluera le roi aura des coups de bâton. » Celui qui l'insultera sera pendu. Tout cela était si effrayant que les commissaires n'osèrent s'engager dans la rue du Faubourg Saint-Martin, rue pleine d'encombrements et par conséquent de menaces, rue funeste, rue sanglante, rue célèbre dans les fastes de l'assassinat depuis la terrible histoire de Berthier. On résolut donc de rentrer par les Champs-Élysées et le cortège, tournant Paris, prit les boulevards extérieurs. C'était 3 heures de supplice en plus, et ce supplice était si insupportable que la reine demandait que l'on rentrât par le chemin le plus court, ce chemin fut-il le plus dangereux. 2 fois elle avait essayé de baisser les stores, 2 fois, au grondement de la foule, il avait fallu les relever. À la barrière, au reste, une forte troupe de grenadiers avait enveloppé la voiture. Plusieurs d'entre eux marchèrent près des portières et, de leurs bonnets à poils, cachèrent presque les ouvertures de la berline. Enfin, vers 6 heures, l'avant-garde apparut au-dessus des murs du jardin de Monceau. Elle menait avec elle 3 pièces d'artillerie qui retentissaient sur le pavé inégal en lourds soubresauts. Cette avant-garde se composait de cavaliers et de fantassins mêlés à des flots de peuple au milieu desquels il leur était presque impossible de tenir leur rang. Ceux qui les aperçurent refluèrent vers le haut des Champs-Élysées. C'était pour la troisième fois que Louis XVI allait rentrer par cette fatale barrière. Il y était rentré la première fois après la prise de la Bastille, la seconde fois après les 5 et 6 octobre, la troisième fois, celle-ci, après la fuite à Varennes. Tout Paris, en apprenant que le cortège rentrait par la route de Neuilly, s'était porté dans les Champs-Élysées. Aussi, en arrivant à la barrière, le roi et la reine virent se dérouler à perte de vue une vaste mer d'hommes, silencieux, sombres, menaçants, ayant leurs chapeaux sur leur tête. Mais ce qui peut-être était, sinon plus effrayant, du moins plus lugubre que tout cela, c'était une double haie de gardes nationaux tenant leurs fusils renversés en signe de deuil et s'étendant de la barrière aux Tuileries. C'était un jour de deuil, en effet, deuil immense, deuil d'une monarchie de 7 siècles. Cette voiture qui roulait lentement au milieu de tout ce peuple, c'était le char funéraire qui conduisait la royauté au cercueil. En apercevant cette longue file de gardes nationaux, les soldats qui accompagnaient la voiture agitèrent leurs armes au cri de « Vive la nation !» Le cri de « Vive la nation !» retentit aussitôt sur toute la ligne de la barrière aux Tuileries. Et puis le flot immense perdu sous les arbres, s'étendant d'un côté jusque dans les rues du faubourg du Roule, de l'autre jusqu'à la rivière, ondula en criant « Vive la nation !» C'était le cri de fraternité poussé par toute la France. Seulement une famille, celle qui avait voulu fuir la France, était exclue de cette fraternité. On mit une heure pour aller de la barrière à la place Louis XV. Les chevaux pliés sous le poids, chacun d'eux portait un grenadier. Derrière la berline où étaient le roi, la reine, la famille royale, Barnave et Pétion, venait le cabriolet renfermant les deux femmes de la reine et monsieur de la Tour Maubourg. Enfin, derrière le cabriolet, une carriole découverte, mais ombragée par des branchages et qui était occupée par Drouet, Guillaume et Maugin, c'est-à-dire par celui qui avait arrêté le roi et par ceux qui avaient prêté main-forte pour l'arrêter. La fatigue les avait forcés de recourir à ce genre de locomotion. Billot, seul, infatigable, comme si l'ardeur de la vengeance l'eût fait de bronze, Billot était resté à cheval et semblait mener tout le cortège. En débouchant sur la place Louis XV, le roi s'aperçut qu'on avait bandé les yeux de la statue de son aïeul. « Qu'ont-ils voulu exprimer par là ? » demanda le roi à Barnave. « Je l'ignore, sire, » répondit celui auquel s'adressait la question. « Je le sais, moi, » dit Pétion, « ils ont voulu exprimer l'aveuglement de la monarchie. » Pendant la route, malgré l'escorte, malgré les commissaires, malgré les placards qui défendaient d'insulter le roi sous peine d'être pendu, le roi rompit 2 ou 3 fois la haie de grenadiers, faible et impuissante digue contre cet élément à qui Dieu a oublié de dire, comme à la mer, « Tu n'iras pas plus loin ». Quand ce heurt arrivait, quand ce brisement avait lieu, la reine voyait tout à coup apparaître aux portières de ces hommes aux figures hideuses, aux paroles implacables, qui ne montent qu'à certains jours à la surface de la société, comme certains monstres, au jour d'orage seulement, montent à la surface de l'océan. Une fois, elle fut tellement épouvantée de l'apparition qu'elle baissa un des stores de la glace. « Pourquoi baisser les glaces ?» dirent 10 voix furieuses. « Voyez, messieurs, dit la reine, voyez, mes pauvres enfants, dans quel état ils sont !» Et, essuyant la sueur qui ruisselait sur leurs joues, « Nous étouffons, » ajouta-t-elle. « Bah !» répondit une voix, « ce n'est rien, nous t'étoufferons bien autrement, sois tranquille !» Et un coup de poing fit voler la glace en éclats. Cependant, au milieu de ce spectacle terrible, quelques épisodes eussent consolé le roi et la reine si l'expression du bien fût venue jusqu'à eux aussi facilement qu'y parvenait l'expression du mal. Malgré le placard qui défendait de saluer le roi, M. Guillermy, membre de l'assemblée, se découvrit quand le roi passa, et comme on voulait le forcer à remettre son chapeau sur sa tête, « Qu'on ose me le rapporter, » dit-il en le jetant loin de lui. À l'entrée du pont tournant, on trouva 20 députés que l'Assemblée venait de déléguer pour protéger le roi et la famille royale. puis Lafayette et son état-major. Lafayette s'approcha de la voiture. « Oh, monsieur de Lafayette !» s'écria la reine aussitôt qu'elle l'aperçut. « Sauvez les gardes du corps !» Ce cri n'était pas inutile, car on approchait du danger, et le danger était grand. Pendant ce temps, une scène qui ne manquait pas d'une certaine poésie se passait aux portes du château. Cinq ou six femmes de la reine, qui, après la fuite de leur maîtresse, avaient quitté les Tuileries, croyant que la reine les avait quittées pour toujours, voulaient y entrer pour la recevoir. « Au large !» criaient les sentinelles en leur présentant la pointe de leurs baïonnettes. « Esclaves de l'Autrichienne !» hurlaient les poissards en leur montrant le poing. Alors, à travers les baïonnettes des soldats et bravant les menaces des femmes de la halle, la sœur de Madame Campan fit quelques pas en avant. « Écoutez, dit-elle, je suis attachée à la reine depuis l'âge de 15 ans. Elle m'a dotée et mariée. Je l'ai servie puissante. Elle est malheureuse aujourd'hui. Dois-je l'abandonner ?» Elle a raison, cria le peuple. Soldats, laissez passer. Et à cet ordre donné par le maître, auquel on ne résiste pas, les rangs s'ouvrirent et les femmes passèrent. Un instant après, la reine put les voir agiter leurs mouchoirs à la fenêtre du premier étage. Et cependant, la voiture roulait toujours, poussant devant elle un flot de peuple et un nuage de poussière, comme un vaisseau en dérive pousse devant lui les flots de l'océan et un nuage d'écume. Et la comparaison est d'autant plus exacte que jamais naufragés ne furent menacés par une mer plus hurlante et plus agitée que celle qui se préparait à engloutir la malheureuse famille au moment où elle tenterait de gagner ses Tuileries qui étaient pour elle le rivage. Enfin la voiture s'arrêta. On était aux marches de la grande terrasse. « Oh, messieurs, dit encore une fois la reine, mais en s'adressant cette fois à Pétion et à Barnave, les gardes du corps, les gardes du corps !»« Vous n'avez personne à me recommander plus particulièrement parmi ces messieurs, madame ?» demanda Barnave. La reine le regarda fixement, avec ses yeux clairs. « Personne, dit-elle. » Et elle exigea que le roi et ses enfants sortissent les premiers. Les 10 minutes qui s'écoulèrent alors furent, nous n'en acceptons pas, celles qui la conduisirent à l'échafaud furent certes les plus cruelles de sa vie. Elle était convaincue, non pas qu'elle allait être assassinée, mourir n'était rien, mais qu'elle allait être ou livrée au peuple comme un jouet, ou enfermée dans quelque prison d'où elle ne sortirait que par la porte d'un procès infâme. Aussi, lorsqu'elle mit le pied sur les marches de la voiture, protégée par la voûte de fer que formaient au-dessus de sa tête, par ordre de Barnave, les fusils et les baïonnettes des gardes nationaux, un éblouissement la prit, qui lui fit croire qu'elle allait tomber à la renverse. Mais, comme ses yeux étaient prêts de se fermer, dans ce dernier regard d'angoisse où l'on voit tout, il lui sembla voir en face d'elle cet homme terrible qui, au château de Tavernet, avait d'une façon si mystérieuse soulevé pour elle le voile de l'avenir. Cet homme qu'elle avait revu une seule fois en revenant de Versailles le 6 octobre. Cet homme enfin qui ne paraissait que pour prédire les grandes catastrophes, ou à l'heure de ces grandes catastrophes s'accomplissait. Or ce fut alors que ses yeux, qui hésitaient encore, après qu'elle se fut bien assurée qu'il ne la trompait pas, se fermèrent. Elle poussa un cri, se laissant aller, forte contre les réalités, mais inerte et impuissante devant cette sinistre vision. Il lui sembla que la terre manquait sous ses pieds, que cette foule, ces arbres, ce ciel ardent, ce château immobile, que tout cela tourbillonnait autour d'elle. Des bras vigoureux la saisirent, et elle se sentit emportée au milieu des cris, des hurlements, des clameurs. À ce moment, elle crut entendre la voix des gardes qui criaient, appelant à eux la colère du peuple qu'ils espéraient ainsi détourner de sa véritable pente. Elle rouvrit un instant les yeux et vit ces malheureux enlevés du siège de la voiture. Charny, pâle et beau, et comme toujours luttant seul contre 10 hommes, l'éclair du martyr dans les yeux, le sourire du dédain sur les lèvres. De Charny, ses regards se portèrent sur l'homme qu'il enlevait au milieu de cet immense tourbillon. Elle reconnut avec terreur le mystérieux personnage de Tavernet et de Sèvres. « Vous, vous !» s'écria-t-elle en essayant de le repousser de ses mains roidies. « Oui, moi, » murmura-t-il à son oreille, j'ai encore besoin de toi pour pousser la monarchie à son dernier abîme, et je te sauve. » Pour cette fois, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter, elle jeta un cri et s'évanouit réellement. Pendant ce temps, la foule essayait de mettre en pièces messieurs de Charny, de Malden et de Valory, et portait en triomphe Drouet et Billot.